Bonjour à tous et bienvenue sur Changemaker Stories, le podcast qui met en lumière des acteurs du changement. Découvrez les parcours fascinants d'hommes et de femmes qui œuvrent à travers le monde chaque jour à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Changemaker Stories. Aujourd'hui, un gros sujet, on va parler d'économie circulaire. Et pour ça, on est avec Cassilda Bachet. Salut Cassilda.
Salut Xavier.
Ça va ?
Ouais, très bien. Et toi ?
Super. Ravi de t'accueillir pour ton premier épisode de podcast. Avant qu'on commence à parler de ce sujet qui est vaste, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ?
Ouais. Du coup, je m'appelle Cassilda. J'ai fait une école de commerce, donc l'IESSEG. Je suis sortie en 2015. Et en sortant, je suis partie en agence de marketing digital pendant 5 ans. Et j'en suis partie en 2019. Et entre-temps, j'ai eu un peu, en fait, je pense vers 2017, j'ai eu un peu un changement, on va dire, écolo à l'époque, qui a commencé à germer.
Ok, ce qui est assez tôt, finalement, 2017.
Ouais. Mais je pense qu'il était moins engagé que ce qu'on peut... Enfin, aujourd'hui, ça ne serait pas très engagé, mais bon, ça a commencé à me questionner. Et surtout le fait de faire du marketing digital pour des enseignes où vraiment le but, c'était de faire consommer les Français ou en Europe, ça commençait un peu à me questionner. Et en parallèle, en fait, je me suis mariée en 2018 et mon mari bossait à ce moment-là sur des problématiques d'économie circulaire. Il m'en parlait pas mal, il était en conseil et il aidait des grands groupes à créer un peu des startups circulaires au sein de ces groupes.
Ok.
Et le concept de réconcilier économie et écologie m'a paru quand même vraiment un levier super, surtout que quand on a fait une école de commerce, tu as quand même toujours cette idée de... Bah, en fait, le changement va aussi passer par le business, parce que pour qu'une société s'y mette, il faut que les entreprises s'y mettent.
Il faut de la rentabilité.
Il faut de la rentabilité pour qu'on puisse, pour qu'on puisse opérer le changement, enfin que ça puisse s'opérer à grande échelle, on va dire. En fait, après notre mariage, on voulait... se faire un projet engagé tous les deux. Et donc, on a fait une année sabbatique et on a décidé de partir pendant 6 mois à la rencontre d'entreprises circulaires en Amérique du Sud. Et donc, on a monté une asso qui s'appelle Infinite Resources. Donc, c'était on est parti en 2019. Donc, on l'a monté début 2019.
Okay.
On est allé rencontrer des boîtes pour nous soutenir financièrement, dont Saint-Gobain qui est le plus connu.
Ok.
Et le but, c'était de partir donc, pendant 6 mois à la rencontre de ces initiatives circulaires, donc que ça soit des startups, des grands groupes, des assos, des entrepreneurs solo. On avait 3 objectifs. Le but, c'était d'évangéliser sur l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les modèles? Donc pour ça, en fait, on a fait des vidéos, des articles de blog. Là-dessus, on a fait de la com interne pour Saint-Gobain sur ces sujets, sur toutes ces boîtes qu'on rencontrait. C'était aussi d'apporter de la connaissance sur ce qui se faisait ailleurs pour que ça puisse inspirer. Donc ça, on l'a beaucoup fait, notamment pour Aptar, où on a animé des ateliers de sustainability pour eux, pour leur montrer un peu ce qu'on voyait, pour faire les ponts avec eux. Et le dernier, c'était vraiment, ça reprend un peu l'évangélisation, mais on est allé dans des universités, que ça soit là-bas ou ici en France, et même des écoles, pour parler de l'économie circulaire, raconter ce que c'était, et que ce sujet devienne connu pour la plupart des gens.
Tu vois, c'est assez rare quand même de travailler avec son conjoint. C'était comment? C'était facile ou...
Et en fait, c'était plutôt un challenge avant, parce que c'est de dire, bon, quel discours on va apporter? Comment est-ce qu'on va le présenter aux entreprises? En fait, comment est-ce qu'on arrive à lever des fonds? Voilà. Et à partir du moment où on a eu un premier oui d'une boîte qui nous a donné, à l'époque, 10 000 euros, je crois, en fait, t'as ta plus grande victoire. Et donc, tu te dis... Et en fait, surtout, ce qui était difficile, c'était de nous dire... Tout le monde autour de nous disait, mais en vrai, personne ne va vouloir vous donner de l'argent. Tout le monde s'en fout de ce sujet. Les entreprises, ça ne les intéresse pas. Et du coup, c'est de réussir à te dire, de rester fort et de te dire, en fait, si nous, on y croit. Mmh. Et en fait, bien sûr qu'il y a des gens qui vont vouloir nous sponsoriser.
Donc finalement, le challenge, ce n'était pas plutôt de travailler tous les deux ensemble en tant que couple. C'était plutôt de faire en sorte que le projet prenne au-delà de votre bulle de vous deux, quoi.
Ouais. Bah, t'as quand même de travailler ensemble, parce que du coup, quand t'es un peu confronté à l'extérieur comme ça, c'est plus compliqué, je trouve. Du coup, tu vas plus te challenger. Et après, pendant le voyage, en fait, c'était vraiment hyper intéressant, parce que du coup, t'as ce côté où tu bosses ensemble. Et donc, en fait, on se challengeait sur le boulot, mais du coup, c'était facile. Et c'était un nouveau boulot pour nous deux, apprendre à monter des vidéos, écrire des articles de blog. On ne l'avait jamais fait. Et du coup, comme on voyageait aussi à côté, ça permettait que quand on bosse pas, en fait, que ça soit vraiment hyper sympa.
Ouais, ah, trop bien, voilà. Excellent. Donc ensuite, vous êtes revenu de ce grand projet.
Ouais.
Et pourquoi est-ce que vous avez mis fin à ce projet-là? C'est parce qu'il y avait une date limite où vous étiez dit, bah, après ça, c'est terminé, on essaye de reprendre chacun notre vie pro de notre côté?
Ouais, il y avait un peu de ça. On s'était dit, 6 mois, c'est bien. Moi, j'avais un peu peur de ne pas rester dans le concret, dans le réel de la vie en France. C'était une super expérience et on s'était dit, et en fait, on avait fait aussi une année sabbatique. Tu vois, moi, j'avais pris 8 mois, mon mari un peu plus. Et l'idée, ce qu'on avait négocié avec nos boulots, c'était qu'on revienne aussi. Donc voilà.
Et à ce stade, toi, tu devais revenir dans la publicité.
Ouais, alors moi, mon agence appartenait à un gros groupe qui fait de la pub, hein, mais c'était le groupe Page Jaune Solocal.
Okay.
Et du coup, j'avais négocié de revenir, mais de faire un nouveau métier dans le groupe.
D'accord.
J'ai commencé un nouveau boulot de product manager sur un site web d'artisans où on met des artisans en relation avec des particuliers. Donc toi, tu cherches un mec pour faire ta toiture. Voilà. J'ai beaucoup appris pendant 2 ans, mais j'avais quand même ce truc de me dire, en fait, là, je passe mes journées à savoir s'il faut mettre un bouton en bleu ou en jaune, où est-ce qu'il faut cliquer. Et ça, j'ai beaucoup appris sur la méthode de travail, sur plein de choses. On a bossé avec des devs, etc. C'était la première fois que je le faisais vraiment. Mais voilà, j'avais ce côté qui me résonnait en me disant, bah, ça, en fait, l'économie circulaire, j'ai envie d'y remettre les pieds. Et il se trouve que j'ai eu quand même 2 enfants, 2020 et 2021.
Okay.
Après la naissance de notre deuxième enfant, où là, pour le coup, je me suis dit, bon, je ne veux pas revenir dans mon boulot, j'ai besoin de basculer dans l'économie circulaire.
Alors, on a parlé de ton parcours. Si on parle un peu d'économie circulaire, pourquoi est-ce que c'est vers ce milieu-là que vous êtes engagé? Et c'est quoi le problème de l'économie qui est linéaire, à contrario de circulaire, qui vous a fait vous engager là-dessus?
C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'était vraiment le fait de réconcilier économie et écologie.
Ouais.
Qui, moi, me disait, bah, en fait, c'est là-dedans que je vais pouvoir trouver un boulot. C'est là-dedans qu'en fait, ça recrute aussi. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire changer les entreprises. Parce qu'en fait, si il n'y a pas cet objectif business, tu n'arrives pas à faire bouger les boîtes. Et c'est ça qui, moi, me disait, bah, en fait, ton économie linéaire, bah, tu t'extrais des ressources... tu consommes, tu jettes, l'économie linéaire, tes ressources, en fait, deviennent...
Circulaire, du coup.
L'économie circulaire, pardon.
Lapsus.
Tes déchets deviennent une ressource.
Ouais.
Et t'as pas mal de leviers pour activer cette économie circulaire. Tu peux choisir de réparer, tu peux choisir de repenser ton produit, tu peux choisir de le revaloriser. Enfin, t'as vraiment pas mal de leviers là-dessus. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, chaque entreprise peut pas forcément... activer tous ces leviers, mais en tout cas, on a toujours plusieurs à pouvoir activer. Donc, tu peux la travailler, enfin, la travailler entre guillemets, mais de plusieurs manières. Et ça permet d'être sûr qu'en fait, chaque entreprise a quelque chose à sa part à faire. Et voilà, je reviens là-dessus, mais moi, mon intime conviction, c'est que si on veut faire changer les choses, en fait, on peut le faire, nous, à notre échelle. C'est très bien de faire plein de choses à ton échelle. Et il faut qu'on le fasse, parce qu'en tant que groupe, c'est comme ça aussi qu'on va faire changer la société, mais si les entreprises ne bougent pas non plus, bah malheureusement, le monde ne bougera pas trop.
Alors, donc, tu as commencé à travailler chez Circularix en rentrant.
Ouais.
C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes missions au quotidien?
Quand on était pendant notre voyage, on avait rencontré au Brésil un entrepreneur dans une boîte dans l'économie circulaire, dans la gestion des déchets, et qui était rentré en France et qui avait monté Circularix. Et je l'ai recontacté en lui disant, bah, écoute, est-ce que tu peux me parler de ce que fait Circularix? Ça m'intéresse beaucoup. Et donc, c'est comme ça que j'ai remis...
le pied à l'étrier.
Le pied à l'étrier. Donc, finalement, mon Infinite Resources m'a beaucoup servi. Ça a vraiment été un tremplin pour nous, pour rentrer, pour vraiment bosser là-dedans. Et donc, Circularix, nous, on est un logiciel tech. En fait, on vend une solution SaaS à des enseignes, des retailers, qui leur permet de créer leur offre de seconde vie. Donc, on est vraiment sur un des axes de l'économie circulaire dont je te parlais tout à l'heure, qui est vraiment le fait de réparer, reconditionner. C'est-à-dire que toi, tu revends ton produit que tu n'utilises plus, tu as une enseigne qui va te le racheter, il va être reconditionné par l'enseigne ou un autre reconditionneur, et réparé et remis sur le marché. Et donc, ça permet à ces enseignes, comme un boulanger, de créer toute une offre de seconde vie à côté de leur offre de produits neufs. Nous, on a ce logiciel qui leur permet d'opérer toute l'intelligence, en fait, de savoir à quel prix je vais racheter mon produit, comment est-ce que je vais le racheter, est-ce que je vais aller en magasin, est-ce que ça va être je vais le déposer dans un point relais et l'envoyer par la poste, toute la logistique inversée, Comment est-ce que je vais être payé? Est-ce que c'est en virement bancaire? Est-ce que c'est en carte cadeau? Voilà. Ou est-ce que ça va être reconditionné? Les gestes de reconditionnement à faire, etc.
Aujourd'hui, alors, c'est quoi les principaux produits sur lesquels vous vous appliquez? Qui sont vos plus gros clients? Est-ce qu'il y a une offre qui est très, très vaste avec un nombre de types de produits qui est très, très différent? Ou est-ce qu'aujourd'hui, la seconde vie se calibre sur des types de produits très spécifiques?
Alors, les premiers à avoir fait de la seconde vie, c'est l'automobile. Hein. C'est le secteur de l'automobile qui font ça depuis très, très longtemps.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire changer de main de propriétaire, c'est
ouais,
ça, pour
exactement.
Les voitures?
Ouais. Bah, et les réparer, les remettre sur le marché, ouais. Voilà. C'était vraiment les premiers.
Et après, ça a du sens. C'est probablement le produit qui a le plus de valeur aujourd'hui en termes de ressources utilisées qu'on peut avoir en tant que particulier, j'imagine.
Oui, c'est complètement rentré dans les mœurs d'acheter une voiture d'occasion. Enfin, ouais. Tu vois, c'est vraiment quand tu veux acheter une voiture, c'est la première chose, c'est est-ce que je l'achète neuve ou d'occasion? Et d'ailleurs, très souvent, la réponse, ça va être d'occasion. C'est complètement rentré dans les mœurs. Et après, le deuxième produit sur lequel ça a été fait, c'est les produits tech, les smartphones.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment... aujourd'hui, c'est là où on voit le plus d'offres sur le marché, enfin, où il y a le plus de produits reconditionnés et là où les gens ont beaucoup plus aussi le réflexe de revendre leurs produits. Et donc nous, CircularX, la particularité, c'est qu'on permet à aussi bien de la tech que du textile que des enseignes du luxe d'opérer des programmes de seconde vie et en omnicanalité, donc que ça soit en magasin ou sur le web. Et donc ça, c'est la particularité de CircularX. Et nous, nos gros clients, ça va être des boulangers, ça va être de Leroy Merlin. On a des maisons de luxe comme Christophe qui s'occupe de l'argenterie. Je ne sais pas si tu vois
non,
ce que
vois
c'est.
Pas. Leroy Merlin, en revanche, très bien.
Dans la puriculture, Baby Move, là, faut un peu avoir des enfants pour s'y connaître. Voilà, donc on a vraiment des acteurs super, super variés.
Tu as par exemple un boulanger, un Leroy Merlin, est-ce qu'il reprendrait uniquement des produits qui viennent déjà de chez eux? Comment est-ce que vous opérez ça? Parce que, par exemple, un smartphone Samsung classique, il a pu être acheté via un site de Samsung, via un boulanger, via un Fnac, j'en sais rien, via Amazon même. Est-ce que boulanger est en mesure de récupérer n'importe quoi et de le retransformer, ou est-ce qu'il faut que ça vienne d'une chaîne qui est déjà créée? Par exemple, admettons, moi, mon téléphone, je l'ai acheté en seconde main auprès d'un particulier. Est-ce que je pourrais le revendre à boulanger s'il a déjà été acheté auprès de boulanger par la première personne qui me l'a vendu?
Alors, ça va dépendre des modèles des entreprises, mais en général, elles te proposent de racheter une référence.
D'accord.
Et donc, c'est une référence, un iPhone 15, que tu l'aies acheté chez boulanger, sur le web ou autre part. En fait, c'est eux, ce qui l'intéresse, c'est le produit.
Ouais. Qu'est-ce qui pousse les grosses entreprises à se mettre sur le marché du reconditionné aujourd'hui? Reconditionné ou seconde vie ou
Alors, ils se rendent compte que demain, s'ils ne sont pas dessus, en fait, ils vont avoir un problème parce qu'aujourd'hui, le marché de la seconde vie, en fait, croît énormément. Qu'avec la raréfaction des matières, en fait, si demain, tu vends pas, t'as pas une offre de seconde vie, ton offre de produits neufs va quand même diminuer pour avoir plus de place que ton offre, pour redonner plus de place à l'offre de seconde vie. Et t'as 70% des Français qui sont prêts à acheter un produit reconditionné, mais premium, plutôt qu'un produit neuf qui soit de moins bonne qualité.
Okay.
Les consommateurs ont vraiment changé leurs habitudes. Et donc, ils s'y mettent parce que sinon, ils se disent « Demain, j'aurai plus de business.
Ouais. »
Et je suis obligé de les capter. Et du coup, avec la raréfaction des matières, les produits vont devenir plus chers. Et donc, en fait, demain, tu ne vas plus acheter un iPhone 9, tu vas l'acheter reconditionné. Et donc, si tu n'es pas là si tu n'es pas là avec ton produit reconditionné, en fait, tous ces consommateurs, ils vont partir vers une autre enseigne.
Et ce que tu dis, c'est acheter du reconditionné de qualité, donc probablement du haut de gamme. Si on parle de smartphone, c'est assez facile de se l'imaginer. Est-ce que ça veut dire que les gammes plutôt d'entrée vont disparaître au profit des gammes hautes de reconditionnés?
C'est ce qui va se passer parce que de toute façon, les entrées de gamme, que ce soit, on parle beaucoup de smartphones, mais en fait, c'est vraiment le changement s'opère sur toutes les verticales. Hein. Il y a vraiment une croissance vraiment très forte sur toutes les verticales, qu'on parle du bricolage, du textile. Enfin voilà, on achète quand même tous beaucoup de seconde main maintenant sur tous les produits. Et d'ailleurs, le premier réflexe quand tu achètes quelque chose, ça va souvent être de voir est-ce qu'il n'est pas en seconde main.
Ouais, alors c'est un
dispo.
Réflexe pour certains, mais pas encore pour beaucoup, je pense.
Ouais, mais ça arrive pas mal parce que et en plus en période de crise, quand tu veux payer moins cher, ça c'est quand même rentrer dans les habitudes. Et du coup, avec cette raréfaction des matières, en fait, ça va te coûter trop. Tu pourras plus produire ces produits qui sont bas de gamme parce qu'en fait, ça te coûtera trop cher. Donc, on va plutôt se concentrer sur les produits un peu haut de gamme et sur reconditionner les produits haut de gamme pour avoir un milieu de gamme qui soit du haut de gamme reconditionné.
Si aujourd'hui on a je reste sur les smartphones, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, hein, mais dans nos tiroirs, c'est quoi la meilleure façon de s'en occuper?
Alors,
en tant que particulier, ouais. Là, si, parce que du coup, tu me disais tout à l'heure avant qu'on enregistre qu'en fait, ça perd tellement de valeur, tellement vite, la plupart de ces objets, alors quand on parle essentiellement d'électronique, qu'on a tendance à se dire je le garde au cas où, mais en quelques mois, la valeur est tellement nulle que ça ne sert à rien de faire ça.
Ouais, ça sert à rien de le garder dans cette tiroir, mais au cas où le jour où je casse mon iPhone, parce que le jour où tu casses ton iPhone, l'iOS sera plus compatible. Enfin voilà, tu pourras plus l'utiliser. Alors que si tu le revends, soit ça te permet de garder un peu d'argent soit de te racheter un nouveau téléphone reconditionné ou neuf. Reconditionné, c'est quand même mieux, mais. Et voilà, donc garder ces produits, ça sert à rien dans notre tiroir. Le mieux, ça dépend. Nous, on va opérer avec pas mal d'enseignes différentes. Mais si tu veux revendre un produit, tu vas un produit tech, tu peux aller chez Boulanger. Nous, c'est un de nos clients, soit en magasin, soit sur le site web. Donc, soit en magasin, t'es payé tout de suite. Sur le web, tu dois attendre un peu plus. C'est un peu comme un modèle à la back market où tu dois attendre que ce soit contrôlé en atelier pour savoir si c'est le même état que tu l'as déclaré pour être payé. Le mieux, c'est d'aller directement en magasin où tu as aussi des sites web. On a aussi, je n'ai pas cité dans nos clients tout à l'heure, eBay, avec qui on a lancé un modèle de reverse marketplace. Donc, qui sont branchés avec plein de repreneurs différents sur plein de catégories différentes.
Donc, ça veut dire qu'au lieu d'acheter à un vendeur sur eBay, tu vends à eBay tes produits.
Exactement, tu vends à eBay. Derrière, ça va être différent, ce qu'on appelle repreneurs qui vont être plugués. Mais voilà. Ce qui est important de savoir aussi, c'est ce que j'en ai reparlé tout à l'heure, mais c'est qu'aujourd'hui, toutes ces enseignes, en fait, ils étaient habitués à vendre.
Ouais.
Et en fait, maintenant, aujourd'hui, ils doivent apprendre à acheter pour reconditionner des produits. Et ça, c'est vraiment des nouveaux process et c'est pour ça que nous, on les accompagne. Il y a beaucoup, beaucoup de change management dans ce...
Ouais, j'imagine.
Quand on met en place des programmes de seconde vie. Et donc, des programmes comme eBay, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, comme c'est des reverse marketplace où sont plugués en fait, des repreneurs qui savent déjà faire ça. En fait, ils font ça tous depuis des années. Nous, on appartient à un groupe qui s'appelle Recommerce qui fait du reconditionnement de smartphones depuis 15 ans. C'était un des pionniers à faire ça en France. Eux savent déjà faire ces gestes de rachat. C'est facile pour eux de lancer des programmes. Et là, multicatégorie sur eBay, tu peux aussi bien revendre du petit électroménager, que du tech, qu'une console, que tes jeux vidéo. Enfin, vraiment, il y a que ton PC, il y a une largeur de catalogue, qu'une machine à café. Enfin, très, très.
Tout ce qui contient une puce, en fait, globalement, la plupart du temps, ça marche assez bien, quoi.
Oui, après, on opère
du textile
enfin, plein de choses différentes. C'est juste que quand tu as plus de valeur, c'est plus facile là où sur des produits qui ont plus de valeur.
Ouais, logiquement. Parce qu'en fait, effectivement, si tu dois prendre en compte la reprise, la logistique, le travail, la réparation, etc., et si tu arrives à avoir une meilleure marge parce qu'un produit plus haut de gamme, c'est plus simple à mettre en place. Parce qu'on parlait de rentabilité juste avant, donc effectivement, logique.
En tout cas, pour un premier pas pour ces boîtes dans l'économie circulaire, c'est plus facile. Le temps de rôder, et je pense que ça va beaucoup changer dans les prochaines années, parce qu'en fait, ça va aussi rentrer dans les mœurs. Les circuits seront beaucoup plus développés, donc tu auras peut-être aussi plus d'ateliers de reconditionnement, donc plus proches, donc une logistique moins chère. Enfin voilà, je pense que ça va beaucoup changer. Mais du coup, c'est vrai que commencer avec sur des produits qui ont plus de valeur, c'est plus facile parce que tu te retrouves plus facilement économiquement, enfin plus rapidement en tout cas.
C'est quoi tes missions toi chez CircularX? Tu t'occupes de quoi en grande partie?
Alors moi, je m'occupe des équipes projet. Donc en fait, les équipes projet, on va être après la phase commerciale et avant la phase où le programme est lancé et fonctionne. Et donc moi, mon boulot, ça va être d'accompagner ces enseignes avec qui on travaille pour mettre en place le programme de seconde vie. Et en fait, ça prend plusieurs mois. Il y a beaucoup de discussions parce que ça va dépendre toujours de la maturité de l'acteur. Mais en fait, tu as quand même beaucoup de change management parce que, comme ce que je te disais, ils savent vendre, mais ils ne savent pas acheter. Mm. Et donc, c'est vraiment des nouveaux process à mettre en place pour ces boîtes, de voir ben, quelle logistique on va appliquer. En fait, mes vendeurs en magasin, ils savent très bien vendre, mais en fait, reprendre une perceuse, savoir son état, pouvoir faire le diagnostic du produit.
Identifier un prix.
Alors, le prix, nous, on le donne, mais c'est-à-dire que tu vas devoir me dire est-ce que c'est du très bon état, du bon état. Voilà, on a une liste de questions qui vont te permettre de pouvoir donner un état et donc un prix pour vraiment guider que ce soit l'utilisateur sur Internet ou le vendeur en magasin. Mais c'est des gestes métiers qui s'apprennent. C'est comme payer un client. Tu n'as pas l'habitude de payer un client. En fait, il va plutôt te payer en général. Donc, en fait, tous les flux sont inversés. Et donc, en fait, on va parler aussi bien avec les équipes logistiques, les équipes finances, le juridique, parce qu'en fait, c'est un nouveau modèle, ce qu'on appelle, c'est des nouveaux statuts à mettre dans ton entreprise parce que tu vas racheter des produits. C'est un modèle de brocanteur, c'est pas du tout ce que tu faisais. Les équipes marketing, ça c'est hyper important aussi parce qu'en fait un programme de seconde vie qui est pas animé, en fait il fonctionne pas. Si personne ne sait que ton offre, que tu rachètes des produits, en fait personne va venir te revendre des produits.
Et tous les gens qui ont été formés sur l'achat, finalement ils oublient leur formation parce qu'il y a pas suffisamment de flux entrants.
Exactement. Et en plus, s'ils achètent aussi, ça sera plus facile aussi pour eux de revendre l'offre de reconditionner parce qu'en fait t'as vraiment tout un aspect de nouveaux marchés et voilà, donc c'est vraiment, on parle avec toutes ces équipes et donc moi mon but c'est de lancer un projet en temps et en heure, mais c'est vraiment d'accompagner, de prendre les bonnes décisions avec ces équipes, leur faire prendre les bonnes décisions qui fonctionnent avec leur modèle, et sur quel catalogue produit, quel produit je vais racheter, à quel prix, comment, est-ce que c'est moi qui répare, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que je vais aller avec des repreneurs externes, dans ce cas-là qui ça. Et nous, on a une expertise sur le marché parce que ça fait 15 ans qu'on fait ça. Et donc, on va aller leur conseiller, tu devrais plutôt... nous, sur le marché, on connaît un tel. Tu peux aller travailler avec eux. Voilà les forces et les faiblesses de chacun. On a tout cet accompagnement et qui peut durer plusieurs mois. Et ensuite, quand le programme est lancé, je passe la main à d'autres équipes.
D'accord.
Qui sont chargés plutôt de faire grandir et animer ce programme de rachat.
Tu disais tout à l'heure que en fait une boîte qui lance ce programme-là mais qui n'arrive pas à trouver des acheteurs ou des vendeurs plutôt parce que c'est elle qui achète, ça fonctionne pas. Et tu me disais aussi il y a beaucoup de gens qui sont prêts aujourd'hui quand ils veulent acheter quelque chose à regarder s'il y a une offre de seconde main qui existe à la place. Si je fais mon expérience perso, en fait j'irai regarder sur Le Bon Coin, j'irai regarder éventuellement sur Vinted, j'irai regarder sur Give. Ou c'est du don, mais je pense pas m'être déjà dit ou Back Market si c'est du produit tech ou Murphy si c'est de l'électroménager. Enfin, mais à chaque fois c'est des boîtes très spécifiques qui font ça. Mais je suis jamais allé me dire tiens je vais aller regarder à la Fnac ou à Darty ce qu'ils ont comme offre occasion parce que déjà c'est mélangé dans leur offre avec le neuf la plupart du temps sur leur site en ligne. Pareil chez Boulanger, je me suis jamais dit tiens je vais aller voir chez eux ce qu'ils ont en offre occasion.
Ouais parce que je pense aussi en fait que toi t'es en fait, tu connais déjà le marché, tu sais que tu veux acheter du reconditionné. Du coup, tu sais où tu veux aller. Enfin, toi, tout le monde ne connaît pas Murphy pour aller acheter un lave-linge d'occasion. Et donc, en fait, ces enseignes aussi, c'est leur but, c'est de proposer à des gens qui, en fait, n'auraient pas forcément pensé à acheter de l'occasion, de leur dire, en fait, regarde, tu as ce même produit ou un produit équivalent qui sera reconditionné, qui est soit moins cher, soit... C'est même prix, mais c'est de meilleure qualité. Enfin, tu vois, c'est...
Donc, en fait, ils doivent porter le fardeau de la démocratisation, quoi.
Ouais, c'est grâce à eux que cette démocratisation va se faire. Et ce qu'ils apportent aussi, c'est la simplicité. En fait, Le Bon Coin, c'est top. Hein. Moi, je m'en sers tout le temps. Mais c'est vrai que tu as ce « je dois rechercher mon produit », tu as cette négo, tu dois aller le chercher. Et en fait, demain, tu sais que ton produit, il est directement dans un magasin Leroy Merlin, juste à côté de chez toi. En fait, c'est beaucoup plus facile.
Ouais, c'est vrai aussi. En fait, il faut que ce soit juste bien proposé à la bonne personne au bon moment.
Exactement.
C'est ça la difficulté. C'est quoi, à ton avis, les prochaines étapes pour le marché de l'économie circulaire? Là, j'ai l'impression qu'on est dans les balbutiements de... Tu vois, tu disais, pour démarrer, c'est bien de commencer avec des produits à haute valeur ajoutée parce que ça permet de garder une marge, de lancer le projet, de lancer le marché, d'avoir... Mais en fait, ce serait quoi le prochain truc? Est-ce qu'on arriverait à reconditionner n'importe quoi, à n'importe quel prix? Est-ce que en fait, on n'aurait plus besoin de nouvelles matières premières, de nouvelles ressources, parce qu'on serait capable d'utiliser uniquement ce qui est sur le marché aujourd'hui, donc et d'avoir des flux qui sont fait, si on se projette à, je sais pas, 2100, 2150, est-ce qu'en fait, on peut utiliser uniquement les ressources qu'on a aujourd'hui, quasiment, pour continuer à juste produire à partir des déchets qu'on a faits?
J'aimerais. Je pense que dans la réalité des choses, il y aura toujours du neuf, mais du neuf mieux fait, qui sera, tu vois, c'est un autre pilier de l'économie circulaire. Ça va être une meilleure éco-conception, des produits qui ont une meilleure durée de vie. Parce qu'en fait, toutes les enseignes se rendent compte qu'ils maintenant, ils vont être obligés de réparer leurs produits pour pouvoir leur donner une seconde vie. Donc en fait, pour pouvoir réparer tes produits, il faut que tu les conçoives mieux pour qu'ils soient plus durables, qu'ils résistent mieux. Je pense que les prochaines étapes, c'est que ça va vraiment se démocratiser sur toutes les verticales, même si là, on le voit que ça se démocratise sur toutes les verticales, mais même d'avoir d'autres enseignes qui se mettent. Tu vois, là où on a lancé Christophe, un acteur du luxe dans l'argenterie. En fait, c'est un des premiers acteurs à s'y mettre. Et ils sont un peu scrutés par tous les acteurs du luxe en disant « Ah, mais vous y arrivez !» Et en plus, eux, ils ont un modèle de rentabilité directement. Et du coup, ça inspire, en fait. Et du coup, c'est d'avoir un peu des pionniers dans chaque verticale qui existe, qui va prouver son modèle et dire bah, « Voilà, moi, j'y arrive. Donc, en fait, toi aussi, tu peux y arriver. »
Ouais, super intéressant. Écoute, merci beaucoup pour tous ces insights.
C'était
très sympa. De mon côté, je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour l'épisode suivant. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt.
Merci pour ton invitation en tout cas. Salut, salut Xavier.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si Changemaker Stories vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant au podcast et en nous laissant une note 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes préférées, Spotify et Apple Podcasts. Ah oui, et aussi, partagez ces histoires autour de vous, elles méritent d'être connues. Changemaker Stories est un podcast de l'ISEG School of Management et ISED Network, produit par ECOS Studio. À très bientôt !